Bonjour, bonjour et bienvenue. Merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Comment faire redémarrer la machine économique après des mois d'arrêt ou de perturbations profondes? Quel est l'état social de notre pays aujourd'hui après cette longue pandémie qui n'en finit pas? Les mécanismes de protection ont-ils permis d'éviter le pire et jusqu'à quand resteront-ils en place? Comment aider ceux qui auront du mal ou qui ne retrouveront pas le chemin de l'emploi? Autant de questions que nous poserons à la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne, est l'invitée de Questions Politiques. Elle nous expliquera également le plan inédit mis en place pour permettre aux jeunes de ne pas décrocher du monde professionnel. Ce plan, un jeune, une solution. Et puis, jusqu'à quand le télétravail devra rester une obligation? Et où en est la situation sanitaire et la campagne de vaccination dans les entreprises? Pour intervenir, le hashtag QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour madame, bonjour à tous.
Solène Royer du journal Le Monde. Bonjour Solène.
Bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, madame la ministre, et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. C'était la première fois cette semaine qu'on pouvait lire dans la presse, à la une du Figaro par exemple, et qu'on pouvait voir sur les bandeaux des chaînes d'infos continues cette question. Et si la crise du Covid était derrière nous? Question qui pourrait sembler absurde, qu'on peut poser maintenant, mais je la vous pose. Votre réponse, Elisabeth Borne.
Évidemment, avec la campagne de vaccination qui se déploie très fortement, on voit le bout du tunnel de cette crise sanitaire. Et c'est important parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de lassitude dans le pays, avec tout ce qu'on a vécu d'un premier confinement, d'un deuxième, de restrictions sanitaires. Je crois que chacun a envie de tourner la page et on espère tous que c'est bien ce qui est en train de se passer.
Mais entre l'envie justement et l'espoir, vous diriez que la crise du Covid-19 est enfin derrière nous?
Alors moi je dis que la vaccination c'est évidemment un atout formidable pour sortir de cette crise sanitaire. Il faut rester très prudent parce que tout le monde n'est pas vacciné aujourd'hui. Et puis il faut rester vigilant aussi sur les variants. Donc les vaccins vont s'adapter aussi pour en tenir compte.
Solène de Royer.
Justement sur les vaccins, l'Académie de médecine redoute un essoufflement de la campagne vaccinale cet été qui nous ferait rater l'immunité collective qui est fixée à 80% de la population. Faut-il rendre le vaccin contre le Covid obligatoire ?
Elisabeth Borne.
Non, ça n'est pas d'actualité. Enfin, vous savez, je pense que au départ, on pensait que les Français étaient réticents.
L'Académie de médecine a préconisé l'obligation de se faire vacciner. Donc, c'est un peu d'actualité quand même.
Je pense que les Français aujourd'hui sont en train de se faire vacciner. On avait au départ des sondages qui faisaient état de beaucoup de réticences chez les Français. On voit qu'on a dépassé ces réticences et qu'aujourd'hui, les Français, ils y vont. Je peux vous assurer que les créneaux de vaccination, quand ils ont été ouverts, notamment pour utiliser les doses non consommées dans les centres de vaccination, il y a eu un rush aussi pour utiliser ces doses. Donc je pense que les Français, ils ont bien compris l'importance de la vaccination pour sortir de la crise.
On atteindra l'immunité collective, selon vous?
C'est bien l'objectif et je pense qu'on peut être confiant sur le fait que les Français ont envie de tourner la page et donc vont se faire vacciner.
À 80%?
Alors, à plus, on espère, à 90%, ça serait effectivement ce qui est nécessaire pour atteindre cette immunité collective.
Nathalie Saint-Cric.
Je voudrais juste revenir sur la situation sociale. Comment est-ce que vous, en reprenant la question d'Ali, comment est-ce que vous jugez l'état de la France et le climat social? Est-ce qu'il y a une espèce de joie du déconfinement qui prendrait le dessus sur l'éventuelle réactivation des tensions qu'il pouvait y avoir et qu'il y a eu dans les années précédentes ou dans les mois ou au début du quinquennat? Comment vous sentez les choses?
Elisabeth Borne.
Ce que je peux dire, c'est qu'on a fait le maximum. On a mis en place des aides massives pour protéger les entreprises, pour protéger les emplois et donc les Français dans la crise. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que ces aides massives, elles ont porté leurs fruits. Vous savez que après la crise de 2008-2009, le chômage avait augmenté de 25%. On est aujourd'hui autour de 9% grâce à tout ce qui a pu être déployé pour protéger les entreprises, pour protéger les emplois.
Et l'évolution, vous la voyez comment? Dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, pour l'instant par rapport au chômage?
L'évolution, elle va être permise par la reprise de l'économie. Évidemment, moi je souhaite que l'activité reparte Et c'est bien pour ça aussi qu'on a présenté un plan de relance pour booster notre économie, pour faire repartir la machine et qu'on puisse créer le maximum d'emplois et permettre à chacun de retrouver un travail.
Mais vous êtes dans la perspective. En fait, ce qu'on voudrait comprendre, c'est là aujourd'hui, on est dans quelle situation ? Est-ce qu'on risque de se heurter à une crise économique ? Est-ce que les plans sociaux vont s'enchaîner ? Est-ce que le chômage va s'emballer ? En fait, c'est ça les questions que les Français se posent.
Moi, je vous parle aussi d'aujourd'hui.
Elisabeth Borne.
Je vous parle bien d'aujourd'hui. Je vous dis qu'aujourd'hui, on a mis en place des aides massives qui fonctionne. L'activité partielle, elle a protégé jusqu'à 9 millions de salariés au plus fort de la crise. Elle vient en protection immédiate quand on met en place des restrictions sanitaires. Par exemple, mes services publieront demain les chiffres de l'activité partielle pour le mois d'avril. On est remonté à 2,7 millions de salariés protégés par l'activité partielle en avril. On était à 2,4 millions au mois de mars. Donc ça veut dire que quand on a des restrictions, l'activité partielle a permis de prendre le relais et de protéger les salariés et les emplois.
Qu'on comprenne bien, ce sont tous ces dispositifs qui permettent donc d'indemniser l'activité partielle. Ces mécanismes, ils ont été importants, ils resteront en place encore un mois, ça.
Alors,
c'est sûr,
ces
jusqu'au mois de juin.
Moi je vais vous dire, ensuite... moi je suis très attentive à ce qu'on ajuste la prise en charge par l'activité partielle de façon progressive, et qu'on ne prenne pas de risque de mettre des entreprises en difficulté, alors que depuis des mois, on a protégé des millions de salariés. Et vous savez, c'est aussi très significatif en termes de coûts, hein. Ça sera plus de 40 milliards d'euros sur l'année 2020 et 2021 pour protéger les emplois, pour protéger les compétences des entreprises. Donc on va être très prudent dans l'ajustement de ces aides.
Quand vous dites ajustement, ça veut dire baisse.
Oui, absolument. Donc, mais... tout au long du mois de juin, les secteurs protégés, c'est-à-dire ceux qui sont le plus affectés par la crise sanitaire, on pense par exemple aux hôtels, cafés, restaurants, ils vont continuer à bénéficier d'une prise en charge à 100% de l'activité partielle. Et ensuite, on montera un reste à charge pour l'entreprise de 15% au mois de juillet, de 25% au mois d'août pour atteindre 40%, c'est-à-dire le taux de droit commun, au mois de septembre. Et dans le même temps, on a mis en place un nouveau dispositif, l'activité partielle de longue durée,
oui,
qui permet de protéger les emplois jusqu'à 24 mois. Les entreprises, les branches professionnelles, les entreprises s'en saisissent. Aujourd'hui, on a plus de 800 000 salariés qui sont protégés par l'activité partielle de longue durée. Donc ce dispositif, il permet à toutes les entreprises qui anticipent une reprise plus lente de leur activité, qui vont être en dessous du niveau d'avant la crise, d'avoir...
Quel secteur en particulier ?
C'est par exemple l'aéronautique qui mobilise fortement l'activité partielle de longue durée. Et je pense que ça sera efficace. Vous savez, c'est vraiment un investissement, moi je tiens à le dire, parce que après la crise de 2008-2009...
Oui. Est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une manière de limiter la casse sociale, comme le pensent certains, et d'autres vont même jusqu'à dire on a créé des emplois zombies, des jobs zombies, c'est-à-dire des jobs qui auraient disparu s'il n'y avait pas eu ces aides et ces mécanismes de protection mis en place par l'État.
C'est très clairement un investissement, parce que après la crise de 2008-2009... on avait beaucoup d'entreprises en France qui avaient rapidement licencié leurs salariés. Au moment où l'économie est repartie, ces salariés, ils n'étaient plus là, les compétences, elles n'étaient plus là. Vous savez, par exemple, pour former un chaudronnier dans l'aéronautique, il faut 7 ans. Et quand on s'est séparé de son salarié, c'est des compétences qui manquent et qui ne vous permettent pas de bénéficier de la reprise économique. Donc, je pense que c'est très important, et on a fait ce choix délibéré dans la crise actuelle, de protéger les salariés et d'éviter des drames humains, mais en même temps de s'assurer que les entreprises peuvent bénéficier pleinement de la reprise économique. Je précise que l'activité partielle, c'est aussi la possibilité de former les salariés. On a mobilisé 1 milliard d'euros pour permettre aux entreprises de former les salariés pendant qu'ils ne travaillent pas, pour qu'en sortie de crise, les entreprises soient plus fortes avec des salariés mieux formés.
Mais les entreprises zombies, ce n'est pas complètement une chose que les journalistes inventent. Est-ce que vous réussissez à les quantifier ? Est-ce qu'effectivement, là, il faut s'attendre à quelques drames sociaux ?
On sait qu'on a Elisabeth des entreprises Borne. Qui étaient en difficulté avant la crise, qui ont pu bénéficier de toutes ces aides. Et on va être aussi attentif au moment de la sortie de crise à la fragilité de certaines entreprises.
Combien sont-elles ? Est-ce que vous arrivez à les chiffrer ?
Je suis pas capable de vous dire aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas ces chiffres-là. On va voir avec la reprise. Vous savez, on est en train de passer d'une aide massive pour toute l'économie. Je pense que Bruno Le Maire l'a bien expliqué. On va plutôt maintenant d'abord faire évoluer très progressivement ces aides pour ne pas mettre les entreprises en difficulté, et puis mettre en place des dispositifs plus ciblés sur les territoires, sur les secteurs économiques qui peuvent être plus fragiles en sortie de crise. C'est un sujet important dont moi je parlerai avec les organisations patronales et syndicales le 7 juin. On échange beaucoup sur tous ces dispositifs depuis le début de la crise, et on parlera le 7 juin précisément des territoires plus fragiles, des entreprises plus fragiles et de la façon de les accompagner au moment de la reprise.
Solène de Royer puis Nathalie Saint-Cricq.
Le début du quinquennat a été marqué par les gilets jaunes, mais aussi un mouvement social très fort contre les retraites. Redoutez-vous un déconfinement des revendications sociales à la rentrée notamment ?
Je pense que les salariés, ils sont très attachés à ce que l'activité puisse reprendre. Ils attendent effectivement que leur entreprise redémarre, que l'activité revienne. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans les discussions que je peux avoir, à la fois dans les entreprises et avec les organisations patronales et syndicales.
Il y a une question malgré tout qui se pose, c'est celle de la réforme de l'assurance chômage, puisqu'on a parlé des dispositifs d'aide, et parallèlement, il y a cette réforme qui devrait entrera en vigueur le 1er juillet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord les grands principes de cette réforme, et si vous ne changerez pas de position, en l'occurrence, si vous resterez, alors je sais que vous n'aimez pas le mot, mais si vous resterez inflexible?
Moi, je ne peux pas accepter ce mot parce qu'il y a eu 6 mois de discussion avec les organisations patronales et syndicales pour adapter la réforme au contexte de la crise. Cette réforme, son objectif, c'est à la fois de mettre les entreprises face à leurs responsabilités pour qu'elles proposent des CDI ou des CDD plus longs, parce que vous savez qu'au cours des dernières années, on a eu une explosion des contrats courts, donc des CDD de moins d'un mois,
oui.
Plus de 150% en 15 ans. Donc, il y a dans la réforme de l'assurance chômage un système de bonus-malus pour les entreprises, précisément pour les inciter à proposer des contrats plus longs.
Mais c'est pas le principe principal.
C'est un des aspects importants.
C'est quand même de voir
importants.
Les indemnités chômage, les indemnités en cas de licenciement qui vont baisser.
Non, les indemnités ne vont pas baisser. Moi, j'entends dire, enfin, je veux le dire très clairement, au demandeur d'emploi qui peut finir par être inquiet avec toutes les contre-vérités qu'on peut entendre, il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation va baisser au 1er juillet. La réforme, elle n'est pas... Non, la réforme, elle n'est pas rétroactive. Tous ceux qui sont indemnisés aujourd'hui ou qui le seront d'ici au 1er juillet, leur allocation ne changera pas au 1er juillet. Et puis, je pense qu'il y a un point très important aussi.
Il y a une étude de l'UNEDIC qui parle d'une baisse de 17% des allocations pour plus d'un million de salariés.
Alors, c'est une présentation tronquée de ce qui va se passer sur l'allocation chômage. Le montant global de l'allocation chômage ne changera pas, ne baissera pas. Ça veut dire que si votre allocation mensuelle peut baisser, vous serez indemnisé pendant plus longtemps. Et les seuls qui peuvent avoir demain une allocation plus basse qu'aujourd'hui, c'est ceux qui gagnent plus en étant au chômage que ce qu'ils gagnaient dans la période précédente. Et par ailleurs, on a mis en place un plancher, précisément, pour qu'il n'y ait pas des allocations trop basses. Mais vous savez, le système actuel, il est très injuste. Quand vous travaillez un jour sur deux à temps plein ou que vous travaillez tous les jours à mi-temps, vous avez travaillé le même nombre d'heures, bien celui qui travaille tous les jours à mi-temps, il a une allocation qui est près de la moitié de celui qui travaille un jour sur deux. Donc moi, je pense que c'est important d'avoir
pour
une
vous,
réforme.
Le système actuel encourage à la précarité, pour le dire très rapidement.
Ah, mais moi, je pense que le système, vous savez, c'est pas moi qui le dis, 250% d'augmentation des CDD de moins d'un mois en 15 ans. C'est un système qui est à la fois injuste, je viens de le dire, sur la différence entre le salarié à mi-temps et celui qui travaille un jour sur deux. C'est un système qui est donc à la fois injuste et qui enferme des centaines de milliers de travailleurs dans la précarité.
Indépendamment de la limitation des contrats courts, ce que vous venez de nous expliquer, quelle est la philosophie de cette réforme par rapport aux salariés ? C'est en gros de favoriser la reprise du travail. Il y a toujours une philosophie derrière une réforme.
La philosophie, c'est de sortir de cette diffusion massive des contrats courts.
Mais ça, j'ai compris.
Mais
par rapport aux salariés, quand on réforme l'assurance chômage, quelquefois, c'est en se disant que finalement, il est plus facile pour certains de toucher leurs prestations que de chercher du travail. Quel est le moteur?
C'est bien aussi d'encourager les salariés à travailler plus longtemps. Vous savez, il y en a qui ont des CDD facilement. Ben, ceux-là, l'idée, c'est de les encourager à en prendre davantage. Et puis, pour ceux qui aujourd'hui ont du mal à trouver du travail, qui ont des CDD courts et des longues périodes où ils ne sont pas indemnisés, mais ils seront mieux indemnisés demain, ils seront indemnisés
juste
plus longtemps.
Une précision, vous garantissez à toute personne, parce qu'il y a un simple nombre de pataugeages dans le calcul, c'est-à-dire avec des gens qui s'interrompaient de travailler, avec des gens qui avaient des parcours heurtés, est-ce que vous êtes sûr et certain que tout le monde sera à égalité dans l'indemnisation? On a vu que les choses avaient été un peu flottantes dans les dernières semaines.
Elisabeth Borne. Non, je pense pas que les choses aient été flottantes. Il y a eu...
Enfin, c'est ce que vous reprochent les partenaires sociaux.
Il y a eu un effet qui a été pointé et qui a été signalé tardivement par les organisations syndicales sur les gens en congé maladie, en congé maternité ou en activité partielle. On a un décret rectificatif qui est en cours d'examen au Conseil d'État.
En espérant que ça se passe bien.
Oui, par définition, quand on présente un décret, on espère que ça se passe bien.
Donc, la dernière fois, le Conseil d'État
ce décret qui permet
a émis
de
des
corriger,
réserves sérieuses sur le précédent décret. Donc.
Oui, je vous confirme qu'on en a tenu compte.
Une dernière
on
question,
en a tenu compte, notamment en mettant en place un plancher, je pense que c'est important. Et moi, je le dis très clairement, la réforme qui rentre en vigueur au 1er juillet, ça n'est pas celle qui a été prévue en novembre 2019. Mais... On a évoqué les modes de calcul de l'allocation chômage. Mais vous savez, sur le nombre de mois qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier d'une allocation chômage, on va maintenir au 1er juillet une ouverture des droits quand vous avez travaillé 4 mois et on ne passera à 6 mois que quand la situation du marché du travail sera revenue à la normale, sera
c'est
fortement
quoi
améliorée.
La normale, pour qu'on comprenne. Quand ça sera revenu à la normale, c'est quoi le à partir de quand on passera au deuxième régime?
Eh bien, on passera à ce régime quand on aura une baisse très significative du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A. Et quand les embauches, donc qui seront en l'occurrence mesurées sur 4 mois, seront très dynamiques, et donc le marché du travail, ça sera... Je peux vous assurer que pour que les deux indicateurs passent au vert, il faudra qu'on soit dans un marché de l'emploi
2022.
Très dynamique. Je vais pas... Enfin, moi, je ne sais pas exactement de quoi sera fait la conjoncture économique.
Est malicieuse, mais elle est très juste. Répondez, Elisabeth Borne. Après,
moi, je vous dis, on a défini, avec un échange avec les partenaires sociaux, ces indicateurs. Moi, je verrai, enfin, on verra bien à quel moment ils seront réunis. C'est une baisse de 130 000 demandeurs d'emploi de catégorie A et puis des embauches très dynamiques sur une période de 4 mois.
Une dernière question sur l'assurance chômage plus politique. Vous avez vu que cette semaine, Muriel Pénicaud, merci, votre prédécesseur, ancienne ministre du Travail, elle-même a des doutes, en fait, sur cette réforme et dit que l'agenda est probablement pas bon. Faire entrer cette réforme en vigueur au moment où il est possible, malgré tout, qu'il y ait plus de plans sociaux et plus de gens qui se retrouvent au chômage, c'était quand même effectivement pas judicieux. Qu'est-ce que vous
Alors,
répondez ?
Alors, ce que dit Muriel Pénicaud, c'est que la réforme qu'elle a portée en 2019 n'est pas adaptée au contexte de la crise. Bah, écoutez, ça tombe bien, puisque moi j'ai mené 6 mois de négociations pour adapter la réforme au contexte de la crise, notamment avec ces clauses de retour à meilleure fortune qui font que les paramètres ne changeront que quand le marché du travail...
Traduction, clause de retour à meilleure fortune.
Ce que je viens de dire, donc, c'est-à-dire qu'on maintiendra une ouverture des droits à 4 mois tant qu'on n'aura pas constaté une baisse importante du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A et une dynamique très forte sur les embauches.
Donc Muriel Pénicaud n'avait pas lu votre dernier...
Je peux rassurer Muriel Pénicaud, la réforme qui rentrera en vigueur au 1er juillet, ça n'est pas celle qu'elle avait portée.
Elisabeth Borne, vous êtes ministre du Travail et vous serez peut-être bientôt ministre du Télétravail, en l'occurrence, Nathalie Saint-Cricq.
Comment vous envisagez les choses? Le retour à la normale? Quand? Comment? Et petite question périphérique, ou pas forcément, les gens qui ont pris goût au télétravail, parce qu'il y en a certains aussi qui ont l'habitude de travailler chez eux et qui n'ont aucune envie de revenir dans leur entreprise, le pourront-ils? Comment ça se passera?
Alors, effectivement, à partir du 9 juin, on assouplit les règles qui s'appliquent en entreprise, les règles sanitaires qui s'appliquent en entreprise, notamment sur le télétravail. Donc, jusqu'à présent et depuis le mois de novembre, la règle, c'était le télétravail systématique pour toutes les activités qui le permettent. Avec l'amélioration de la situation sanitaire, on veut redonner des marges de manœuvre aux entreprises pour leur permettre de définir au sein de l'entreprise, entre la direction et les représentants des salariés, d'abord un nombre minimum de jours de télétravail.
Et donc les entreprises vont décider.
Ça sera dans la discussion entre la direction et les représentants des salariés, un nombre minimum de jours de télétravail à titre d'exemple ou de repère, dans la fonction publique, on va passer à 3 jours de télétravail. Et puis ensuite, on fera de nouveau évoluer cette règle à partir du mois de juillet.
Qu'est-ce que vous reproche, Laurent Berger, de laisser la main aux entreprises et de ne pas écouter les salariés? Et pour certain nombre d'entre eux, je cite Laurent Berger, qui vivent une situation qui serait dramatique parce qu'ils viennent de traverser une épreuve et les contraindre à revenir physiquement au travail ne serait pas forcément la meilleure idée.
Non, mais du coup, on fait bien ce que attend Laurent Berger. Et je pense qu'il l'a bien compris, on demande que ce soit dans le dialogue social, c'est pas la direction qui décide toute seule, c'est le dialogue social entre la direction et les représentants des salariés pour définir les bonnes règles en matière de télétravail. Et ça leur permettra notamment de mettre en œuvre l'accord national interprofessionnel qui a été signé entre les organisations patronales et syndicales à la fin de l'année dernière. Il faut que toutes les entreprises s'emparent de cet accord et le déclinent au sein de l'entreprise pour trouver les bons équilibres. Parce que comme vous le disiez...
Vous sentez quoi, vous, sur l'envie des gens? Est-ce que vous sentez qu'il y a en gros une énorme envie de retourner avec les collègues, voir les gens et tout?
Je pense que c'est très contrasté. Vous savez, les salariés qui ont été à 100% en télétravail depuis des mois, il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus. Mmh. Et dans les enquêtes qu'on a pu mener, qui nous disent qu'ils ont un sentiment de vraiment d'isolement et qu'ils ont envie de retrouver leurs collègues. Et puis vous en avez d'autres qui, pour qui c'est plus facile le télétravail, ça évite de prendre des transports en commun tous les jours. Pour tous ceux qui font des longs trajets en transport en commun, ben c'est aussi un soulagement, c'est plus de temps personnel. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi s'adapter.
Ce sont les mieux fortunés, pour le dire rapidement, ceux qui ont une résidence secondaire, les cadres, les catégories
pas nécessairement, vous savez, je pense
supérieurs,
que...
ou est-ce alors, que justement on arrive maintenant à vraiment définir de manière assez fine ceux qui ont bénéficié, ont gagné de la liberté avec le télétravail et ceux pour qui ça a été une contrainte?
Ce qui est très clair, c'est ceux qui vivent dans un petit logement ou qui sont à deux dans un logement, qui ont dû télétravailler face à face. Ça a été certainement très éprouvant. Mais ensuite, on a aussi tous les salariés, je vous dis, qui font une heure de trajet dans chaque sens, par exemple en région parisienne, pour qui c'est un plus de pouvoir télétravailler une partie de la semaine. Donc moi, ces discussions, elles doivent vraiment se mener dans les entreprises pour décliner l'accord qui a été trouvé au plan national dans chaque entreprise pour trouver le bon rythme. Je pense qu'on ne reviendra pas à la situation d'avant. On a montré les possibilités du télétravail, les salariés ont pu s'en saisir, les entreprises ont aussi équipé leurs salariés.
La révolution a eu lieu.
Moi, je suis convaincu qu'on ne reviendra pas à la situation antérieure à la crise et qu'il y aura plus de télétravail demain. Ensuite, c'est important que ça se fasse dans le dialogue social, dans les entreprises.
Solène de Royer, puis Karine.
Un petit mot sur le mal-être au travail, puisque les burn-out au travail explosent ces derniers mois. Est-ce que vous attendez à une nouvelle explosion des arrêts maladie dans les prochains mois? Qu'est-ce que
Je
vous
pense
observez?
Surtout qu'il faut être très vigilant, et c'est bien ce qu'on recommande aux entreprises. Le retour au travail physiquement va certainement permettre aussi à des salariés de retrouver leurs collègues et de sortir de ces difficultés dans lesquelles ils ont pu être en étant isolés pour certains chez eux. Mais effectivement, il faut être très vigilant, être attentif à ses collègues de travail. Quand on est un manager, être attentif aux salariés qui reviennent de télétravail. Et puis, moi, j'ai mobilisé avec le secrétaire d'État à la santé au travail, Laurent Pietraszewski, la médecine du travail, précisément pour qu'elle soit aussi attentive à ses retours au travail.
Karine Becker.
Juste pour finir, le bilan sanitaire finalement du télétravail, parce qu'il y a une étude assez intéressante de la DARES qui montre que 19% des gens qui ont télétravaillé ont finalement été quand même infectés par le coronavirus.
En dehors du travail.
Alors que ceux qui sont allés à leur poste de travail habituel n'ont été infectés qu'à 17%. Donc du coup, vous en tirez quoi comme conclusion ?
Je pense qu'il y a une étude très claire de l'Institut Pasteur qui montre qu'en télétravaillant à 100%, on réduit de 30% le risque de contamination. Moi, j'en reste à l'étude de l'Institut Pasteur.
Il y a une question qui est importante et même cruciale, particulièrement à cette période de l'année. C'est évidemment celle qui est posée aux jeunes dans leur accès à l'emploi. Vous avez présenté un plan, un jeune, une solution. Avec un peu de recul, est-ce que vous pouvez nous en dire les retours d'expérience? Est-ce que vous pouvez déjà mesurer si ça a fonctionné?
Alors effectivement, la jeunesse, c'est la priorité du président de la République et notre objectif, c'est qu'aucun jeune ne reste sur le bord de la route, qui ne soit pas, comme c'est le cas dans les crises économiques, les victimes de la crise, alors même qu'on leur a demandé beaucoup de sacrifices depuis un an.
Et en l'occurrence, c'était une manière d'inciter les entreprises à embaucher des moins de 26 ans.
Oui, c'est pour ça qu'on a lancé dès le mois de juillet dernier le plan Un jeune, une solution. C'est des moyens inédits, 9 milliards d'euros. Et puis, c'est des solutions adaptées à la situation de chacun pour aider les jeunes à trouver un emploi, un apprentissage, une formation, ou pour ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, pour être accompagnés vers l'emploi. Ben, ce plan, il a porté ses fruits. Vous savez qu'on a eu 1,6 million de jeunes de moins de 26 ans qui ont été embauchés en CDD de plus de 3 mois ou en CDI entre août et le mois d'avril, c'est-à-dire quasiment autant qu'avant la crise. On a eu plus de 520 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés au cours de l'année 2020. C'est un record historique dans notre
pays.
Mais
le taux d'emploi des jeunes n'a pas augmenté.
Le taux d'emploi des jeunes s'est légèrement redressé à la fin de l'an dernier. Et je pense que dans le contexte de crise, hein, moi je rappelle que dans la crise de 2008-2009, on avait eu une augmentation du taux de chômage des jeunes, enfin du chômage des jeunes, de 30%. Donc on a ces chiffres sur l'embauche des jeunes, sur l'apprentissage. Depuis
il y a
800 000
jeunes qui arrivent chaque année en septembre. Il y en a combien qui sont restés sur le carreau, par exemple, en 2020?
Je vous dis, on a effectivement eu 1,6 million de jeunes embauchés, 500 000 contrats d'apprentissage. Depuis le début de l'année, 350 000 jeunes qui ont été accompagnés vers l'emploi.
Il en reste combien à aider?
Et alors, on partait d'une situation dans laquelle il y avait, dans notre pays, beaucoup de jeunes, plus d'un million, 1,4 million de jeunes, qui ne sont ni en emploi, ni en formation.
On peut dire une situation catastrophique et l'une des tristes exceptions françaises dans les pays de l'OCDE.
Eh bien, on est à un taux qui est le double, par exemple, de l'Allemagne. Et moi, je ne m'en satisfais pas. Mmh. Et c'est bien pour ça qu'à la demande du président de la République, moi, je travaille à une garantie jeune universelle pour permettre à chaque jeune qui en a besoin d'avoir un accompagnement vers l'emploi, une formation et une aide financière, une allocation.
Alors justement, la garantie jeune universelle, beaucoup ont pensé que c'était une aide financière. En vérité, ça passe d'abord par le recrutement de conseillers, de 2000 conseillers pour accompagner les jeunes vers le chemin de l'emploi.
Certains préconisent un RSA jeune faire croire qu'on réglerait la situation des jeunes simplement avec une allocation. Moi, je le dis très clairement, ça n'est pas vrai. Et je voyais encore ce matin les deux présidents du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et au Sénat qui vous proposent un minimum jeunesse. Bah, écoutez, moi, je veux un maximum jeunesse.
D'accord,
je
mais pense ça, c'est qu'on des doit... phrases.
Non, mais attendez.
Moi aussi, je préférais
un maximum jeunesse. Eh bien, moi, je dis qu'il ne suffit pas...
Il y a un minimum
pas,
vieillesse, on préfère un maximum. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on donne à chaque jeune une allocation qui pourrait s'en sortir et vivre, tout en l'aidant à avoir une formation et à trouver un boulot?
Mais c'est précisément ça. Ça ne suffit pas de donner simplement une aide financière. Il faut proposer à chaque jeune un accompagnement personnalisé vers l'emploi, et c'est ce que nous proposons, parce que je pense que les jeunes, ils veulent évidemment être aidés financièrement, et il faut le faire aujourd'hui, mais ils veulent surtout accéder à un emploi durable qui corresponde à leur projet professionnel. Eh bien, c'est bien ce que moi je porte. C'est ce qu'on fait avec la garantie jeune. C'est un dispositif qui marche très bien. Donc, on veut étendre ce dispositif. C'est un dispositif
qui permet aux jeunes...
Alors, justement,
une idée du calendrier, Madame Borne?
Pardon?
Une idée du calendrier de ce dispositif?
C'est un dispositif sur lequel on travaille et on fera des annonces prochainement. Le président de la République, sans doute, fera des annonces prochainement.
Mais juillet ou plutôt septembre?
Écoutez, je ne vais pas vous dire maintenant le calendrier exact. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on
travaille.
Non, je vous
pose la question de manière insistante parce que c'est vrai qu'on est à ce moment, et Karine le rappelait, à un moment charnière de l'année pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, justement.
Ah ben écoutez, moi je peux dire aux jeunes que... Donc, on a doublé le nombre de places en garantie jeune. On passe de 100 000 à 200 000. On va accompagner 1 million de jeunes vers l'emploi au cours de l'année 2021. On a prolongé les aides pour les entreprises qui signent un contrat d'apprentissage. C'est 5 000 euros quand vous signez un contrat d'apprentissage avec un mineur. C'est 8 000 euros avec un majeur pour avoir une rentrée de l'apprentissage en 2021 qui soit au même niveau qu'en 2020.
Solène de Royer.
Il y a une autre proposition qui émane cette fois de Laurent Berger. Lui, il propose de taxer les ultra-riches pour financer un vaste plan de mobilisation à l'égard de la jeunesse. Est-ce que c'est une bonne idée?
Je pense que ce qui l'intéresse, c'est qu'on ait un vaste plan à l'égard de la jeunesse.
Faut-il taxer? taxer les ultra-riches.
On a le plan Un jeune, une solution, 9 milliards d'euros. Donc je pense que c'est à la hauteur de la situation pour accompagner tous les jeunes et faire qu'ils ne soient pas les victimes de la crise.
Mais vous n'avez pas répondu à la question, Madame la Ministre.
Non, mais vous savez bien qu'a priori, ce n'est pas notre philosophie. Non, mais ce n'est pas notre philosophie de remettre des impôts et des taxes. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on accompagne bien les jeunes.
Faire contribuer les plus grosses fortunes, Joe Biden, par exemple, aux États-Unis, l'a proposé.
Oui, enfin, vous savez bien qu'on ne peut pas comparer la situation de la France et des États-Unis, que les États-Unis se remettent à niveau, y compris sur l'accompagnement des personnes en difficulté ou sur la fiscalité, c'est une bonne nouvelle. Je crois que la France, elle a une certaine avance sur la taxation.
Il y a une question qui, là, pour le coup, ne concerne plus la jeunesse, mais la fin de la vie professionnelle, c'est la question des retraites. Les retraites, Elisabeth Borne, mais c'était pour vous laisser le temps de boire un petit peu d'eau et de reprendre votre souffle. La réforme des retraites qui avait été un sujet de mobilisation sociale important avant la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme, vous la reprenez et est-ce qu'elle sera votée, mise en place avant la fin du quinquennat?
Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je continue à être convaincu qu'on a besoin d'une réforme de notre système de retraite. On a aujourd'hui un système avec 42 régimes, auquel personne ne comprend rien, qui est par ailleurs injuste. Donc, qu'on ait besoin d'une réforme pour rendre le système plus juste et plus lisible, je n'ai pas de doute. Ensuite, vous avez compris que notre priorité aujourd'hui, c'est la sortie de crise, c'est le rebond de notre économie, c'est que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, c'est ça, notre actualité du moment.
Je n'ai pas compris. Voilà.
Donc, pas de réforme des retraites, alors?
Pas de réforme des retraites.
On verra.
Il n'y a pas l'espace.
On verra dans la suite, enfin, quel est le contexte. De toute façon, c'est une réforme qui doit se faire dans le dialogue avec les organisations patronales et syndicales, et on verra si
il vous reste 6 mois, donc vous dites c'est pas possible en fait, 6 mois c'est trop court.
Pourquoi vous ne dites pas cette réforme est inadaptée au contexte,
l'abandonne. Non, je pense pas du tout que la réforme soit inadaptée au contexte
sanitaire et économique et social qui en découle.
Précisément à sortir d'une injustice pour les personnes qui ont des carrières hachées, qui ont effectivement des emplois moins stables que d'autres. Et je pense que la crise, elle a montré à quel point ces personnes sont vulnérables. Donc non, la crise n'a pas du tout invalidé l'intérêt d'une réforme des retraites. Je dis simplement qu'on a aujourd'hui une priorité, c'est de faire repartir notre économie, et que la réforme des retraites, elle doit se faire dans le dialogue social. On verra quelle est la situation.
L'idée, un, pour donner l'impression de réformer jusqu'au bout, deux, parce que c'est nécessaire, de faire une sorte de couplet, une réforme sur la dépendance, enfin une loi sur la dépendance qu'on attend depuis très longtemps, et celle éventuellement un ajustement peut-être paramétrique des retraites.
Alors, confirme qu'on a des nombreux projets. On a parlé de la garantie jeune universelle. Il y a le sujet de la dépendance. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, et je pense que ça relève du président de la République, la façon dont on va continuer à réformer d'ici la fin du quinquennat. Vous savez, aujourd'hui, tous les pays ont été confrontés à une crise sanitaire. Tous sont en train de préparer le rebond. On ne va pas se croiser les bras en attendant les élections présidentielles.
Non, mais dans le cadre de la renaissance annoncée,
de continuer à avancer, à réformer. Et le président de la République aura l'occasion d'exprimer la façon dont il souhaite le faire.
Le quoi qu'il en coûte, il a vocation à avoir un terme. Ça se terminera quand, d'après vous, Elisabeth Borne?
Vous savez, on est en train de passer à une nouvelle étape, hein, où on est en train de baisser les aides progressivement, les aides d'urgence qui avaient été mises en place dans la crise, où on cible davantage les aides. Et effectivement, l'économie doit pouvoir fonctionner sans avoir toutes ces aides d'urgence quand la situation sanitaire aura permis de lever toutes les contraintes.
Donc on n'est déjà plus dans le quoi qu'il en coûte.
On est en train de sortir progressivement des aides d'urgence. On est attentif dans la période actuelle à ne pas débrancher trop vite les aides et à accompagner les secteurs ou les territoires qui resteraient en difficulté. Mais il faut qu'on revienne effectivement à une situation normale.
Tout cela a coûté 220 milliards, je crois que c'est ce que disait cette semaine.
Tout ça a coûté beaucoup d'argent, je vous confirme. Oui.
Et donc qui va rembourser? Parce que vous ne voulez pas ponctionner éventuellement les plus riches, on abordait cette question-là tout à l'heure, donc qui va rembourser du coup?
Enfin, je vais vous faire la même réponse que Bruno Le Maire. Il faut effectivement que l'économie reparte. Ensuite, il y a une dette exceptionnelle qui devra faire l'objet d'un traitement exceptionnel, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de venir mettre des impôts en plus.
Solène de Royer, et on passe au portrait.
Oui, je voulais vous demander, est-ce que la crise et son quoi qu'il en coûte signe la fin de l'orthodoxie budgétaire et du dogme des 3%? D'autres termes, est-ce qu'on a changé de monde ou est-ce que vous souhaitez qu'on retourne aux règles anciennes, au plus vite, aussi vite
vous
que possible.
Vous avez vu qu'on a su s'affranchir des règles. Toute l'Europe a pu s'affranchir des règles pour pouvoir protéger les citoyens, les entreprises.
Est-ce qu'il faut que ce soit durable?
C'est évidemment pas une. Enfin, ce qu'on fait dans une période telle que celle qu'on a traversée, c'est évidemment pas ce qu'on peut faire tout le temps. Enfin, vous savez, à un moment donné, on peut pas s'endetter indéfiniment en pensant que les générations futures s'en occuperont. Donc, qu'il faille à un moment donné effectivement revenir à des règles plus classiques quand on est sorti de la crise sanitaire, je pense que ça va de soi. Il y a pas d'argent magique.
Non, mais avouez que c'était inimaginable ce qui s'est produit, en tout cas, faire exploser toutes ces règles qui étaient présentées comme des dogmes. C'était inimaginable il y a encore un an et demi.
Mais ce qui s'est produit à l'échelle de la planète, d'avoir une pandémie qui touche tous les pays, qui a mis l'économie à l'arrêt, qui aurait pu mettre des salariés en très grande difficulté, c'était inimaginable. Et je pense que c'est positif que l'Europe ait su réagir et qu'on ait pu le faire en France.
Il est 12h40, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, est l'invitée de Questions Politiques.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Votre portrait, Madame la Ministre, signé Karine Bécard.
Vous êtes ministre depuis déjà 4 ans. Certes, vous avez occupé 3 ministères différents, mais vous êtes entrée, Elisabeth Borne, immédiatement dans ce gouvernement, présentée comme une personnalité de la société civile, ce qui est assez surprenant. Parce qu'en réalité, vous, diplômée de l'école polytechnique, avez assidûment fréquenté les coulisses de la vie politique. Vous avez à peine 30 ans quand vous devenez conseillère technique de plusieurs ministres mitterrandistes, très rapidement Jean Glavany, plus sérieusement Jack Lang et surtout Lionel Jospin, que vous avez aussi servi à Matignon durant 5 ans. Sans oublier votre passage à la mairie de Paris, urbaniste, vous avez été aux côtés cette fois de Bertrand Delanoë, ce qui fait au total plus d'une douzaine d'années d'état de service socialiste avant d'être nommée préfète à 52 ans dans la région à l'époque de Ségolène Royal.
Chaque cas est différent. Ce que je peux vous dire, c'est que dès demain, dans chacun des départements, les services de l'État vont réunir les agriculteurs pour examiner chaque cas et trouver le bon dispositif.
Préfète, donc, première femme préfète de la région Poitou-Charentes, c'était en 2013, il y a seulement 8 ans. Et puis, de temps en temps, enfin assez régulièrement, vous avez délaissé, Elisabeth Borne, la sphère politique pour aller diriger, c'est un grand classique, quelques-unes des plus grandes entreprises publiques. Directrice de la stratégie à la SNCF, vous aviez 41 ans. 13 ans plus tard, vous êtes bombardée à la tête de la RATP, le métro parisien. Est-ce que cela fait de vous une représentante de la société civile ? En tout cas, c'est à ce moment-là que vous entrez au gouvernement, ministre des Transports d'abord, ministre du Travail aujourd'hui, et vous avez été nommé aussi ministre de l'Écologie après l'affaire des homards qui a précipitamment poussé vers la sortie François de Rugy.
Je mesure l'immense honneur qui m'est fait de vous succéder, ainsi qu'à Nicolas Hulot, à la tête de ce grand ministère. Je remercie le président de la République et le Premier ministre de la confiance qu'ils m'ont toujours témoigné depuis le début du quinquennat et dans la conduite d'importantes réformes.
On peut être une bûcheuse, Elisabeth Borne, une femme sérieuse, très sérieuse, et se montrer de temps en temps un peu chaleureuse. Vous, depuis 4 ans, vous apparaissez comme une ministre méthodique, cachée derrière vos dossiers techniques, qui jamais, sur aucun sujet, n'avait souhaité faire de la politique. Vous avez porté l'une des réformes les plus importantes du quinquennat Macron, la réforme du rail. Qu'on soit pour ou contre, c'est une vraie révolution. Et ce qui est fou, Elisabeth Borne, c'est qu'on ait déjà oublié que c'était vous.
Je vous remercie de ces images que vous avez ressorties. Et puis de votre constance dans votre portrait, parce que je pense que effectivement vous aviez déjà eu l'occasion de dire que je faisais pas de la politique. Peut-être ça me donne l'occasion de dire ce que c'est pour moi de faire de la politique. Vous savez, faire de la politique, pour moi, ça n'est pas vouloir faire parler de moi à tout prix. Pour moi, faire de la politique, c'est s'engager pour porter des projets, pour porter des politiques au service de mon pays. Et c'est ce que je fais depuis le début du quinquennat, et c'est ce que je vais continuer
à faire. Vous avez lancé d'ailleurs la première grande réforme du quinquennat, puisqu'on parlait de la réforme du rail.
Oui, mais je vous confirme, je pense que, enfin, c'est ma conception. C'est pas forcément, je vous dis, de me pousser sur le devant de la scène ou de vouloir faire parler de moi à tout prix.
La politique,
ma conception, c'est de porter des dossiers dont je pense qu'on peut partager le fait qu'ils n'ont pas tous été simples, et d'essayer de les mener à bien, au mieux, dans l'intérêt de mon pays.
La politique, c'est aussi le suffrage universel. Un certain nombre de vos collègues vont se présenter aux élections régionales. Vous, votre nom avait circulé à plusieurs reprises pour les municipales à Caen, pour les régionales en Normandie. Et finalement, vous n'y allez pas. Pourquoi ?
Alors, je suis aujourd'hui, vous savez, ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Télétravail et de l'insertion.
Du travail en général, on va dire. Et moi, je suis en permanence sur le terrain avec les élus, avec les missions locales, avec Pôle emploi pour accompagner au mieux les Français, les jeunes dans la crise.
Ça veut dire qu'en creux, vous savez que c'est une critique très dure vis-à-vis de vos collègues du gouvernement qui, eux, sont candidats.
Non, ça n'est pas un manque d'envie, mais peut-être ma façon de faire, c'est que là, j'ai considéré que je devais me consacrer à 100% à ce que je fais. Évidemment, je m'impliquerai pour soutenir nos candidats dans la campagne, mais j'ai pas considéré que c'était compatible avec.
Il n'y a pas de refus d'obstacle, parce que les municipales, vous avez dit vraiment, j'ai envie du combat politique.
Mais je vous confirme qu'un mandat local, ça m'intéresse, parce que je vous ai dit ma vision de la politique au niveau national. Je pense que c'est aussi très important de pouvoir s'engager pour un territoire, pour ses habitants. Mmh. Bah, il se trouve que les circonstances n'ont pas permis, mais ça reste effectivement quelque chose.
Faisant
que
de la politique, on a cru comprendre qu'il fallait faire barrage au Rassemblement National en PACA, d'où la fusion, enfin l'espèce de liste entre LR, Renaud Muselier et LAREM. On a cru comprendre que c'était un peu différent dans les Hauts-de-France et qu'il fallait faire barrage à Xavier Bertrand. Si la liste LAREM est en position de peser, est-ce qu'il faut tout faire pour faire barrage, en l'occurrence à Sébastien Chenu et au Rassemblement National dans le Nord, enfin dans les Hauts-de-France? Y compris se retirer ou...
Je crois que c'est important de revenir sur les enjeux de ces élections, parce que ça éclaire aussi la position que la majorité prend dans ces différentes régions. Les régions, ce sont des acteurs extrêmement importants au moment où nous sommes, où il s'agit de faire repartir notre économie et de s'assurer que chacun peut monter dans le train de la reprise. Vous savez que les régions, elles sont compétentes sur le développement économique. Elles sont aussi compétentes dans des sujets qui me concernent de près, qui est la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi. Mmh. Qu'on ait demain des régions qui travaillent la main dans la main avec l'État dans l'intérêt du pays, c'est extrêmement important.
Alors voilà pour le cours d'éducation civique.
Mais c'est
important de rappeler les choses.
Je pense que c'est important.
Et merci de l'avoir fait.
De rappeler dans le Nord, les enjeux qui se jouent dans ces régionales et qui font qu'en PACA, en effet, avec un président de région avec lequel on a bien travaillé, on a un projet en commun de 5 milliards d'euros de plan de relance en PACA.
Xavier Bertrand, vous avez bien travaillé aussi, a priori, non ? Dans le Nord.
Attendez, Xavier Bertrand, enfin, il fait partie de ceux qui considèrent que les régionales, c'est le marchepied des présidentielles. Je crois qu'il
l'a
dit. Il n'est pas le seul, vous avez raison de le dire. Et effectivement, il ne souhaite pas, il a dit très clairement qu'il ne voulait pas le Rassemblement. C'est son choix de risquer, le cas échéant, de faire gagner le Rassemblement national.
C'est votre choix aussi d'envoyer Éric Dupond-Moretti, de muscler la liste LAREM.
Je l'ai dit, c'est un enjeu important. C'est normal que certains collègues puissent s'impliquer.
Si danger de Sébastien Chenu du Rassemblement national, que doit faire la liste LAREM ?
Je pense que, vous savez, La République En Marche, elle a toujours été très claire sur le fait de refuser, enfin de faire barrage au Front National. De se rassembler pour faire barrage au Front National. Ensuite, pour se rassembler, il faut être plusieurs. Moi, j'entends Xavier Bertrand qui dit qu'il ne veut en aucun cas du rassemblement. Donc, on verra au soir du premier tour la situation au cas par cas dans chacune des régions.
Oui, donc il n'y a pas de Front Républicain, vous pouvez vous
mettre. On verra au cas par cas, on ne se rassemble pas tout seul.
Quand, en l'occurrence, vous avez participé, donc Karine le rappelait dans votre portrait, à la primature sous Lionel Jospin, il est Matignon, et cette aventure politique qui s'est donc terminée un certain 21 avril 2002. Est-ce que vous êtes, 20 ans après, encore traumatisé par l'événement, et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de réponse, enfin que vous parlez de cas par cas et non pas d'une règle générale face au Rassemblement National?
C'est juste pour comprendre. J'ai été très clair, je dis qu'on avisera au cas par cas la meilleure façon de faire barrage au Front National. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il faut faire barrage au Front National. Moi, je pense que le Front National, malgré son vernis de respectabilité, n'a pas changé, et donc qu'il faut continuer à faire barrage à un parti qui veut dresser les Français les uns contre les autres, qui surfe sur les peurs. Voilà, je n'ai aucun doute sur le sujet. Hein, mais
ce sont des ennemis.
Je ne vais pas vous dire ça, c'est une force politique de notre pays. Je dis simplement que
Éric
son
Dupond
projet...
Par exemple,
je dis que leur projet, je pense, n'est pas le bon pour notre pays. Ensuite, il y a des électeurs qui se tournent vers eux en ne partageant pas, je pense, l'ADN historique qui n'a pas changé du Front National, mais parce qu'ils sont... Ils peuvent être inquiets, ils peuvent se sentir déclassés. Ben, je pense que c'est très, très important de parler à ces Français qui sont inquiets pour leur dire qu'on a su les protéger dans la crise. Et je pense que ça a bien été le cas, qu'on s'est mobilisé massivement pour les protéger dans la crise, qu'on va faire rebondir notre pays et qu'ils y auront évidemment toute leur place.
Et est-ce que la stratégie que finalement La République En Marche a adoptée en PACA, de s'allier dès le premier tour telle qu'elle s'est alliée aux Républicains, au Parti des Républicains, Renaud Muselier. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la meilleure stratégie pour éviter l'arrivée du Rassemblement national dans cette région ?
Moi, je vous ai dit que notre logique, c'est de tout faire pour qu'il y ait demain à la tête des régions des exécutifs avec lesquels on peut travailler pour faire repartir notre pays.
Et moi, je vous demande, est-ce que la manière dont ça s'est ficelé, est-ce que c'était effectivement la meilleure manière de faire ?
La manière dont ça s'est passé, elle était logique, avec un président de région, avec lequel on travaille depuis tous ces derniers mois, avec lequel on a préparé un plan de relance pour la région PACA. Et donc, c'est cette logique-là qui a prévalu.
Mais au final, ça a affaibli ou ça a renforcé le Rassemblement national, ce qui s'est passé ?
Écoutez, moi, je ne vais pas épiloguer pour savoir si c'est...
Les élections n'ont pas encore eu lieu et nous ne devons pas trop parler des régionales et des régions en particulier. C'est une question plus générale que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes encore de gauche et est-ce que vous vous sentez bien dans un gouvernement, vous parliez de Bruno Le Maire tout à l'heure, aux côtés de ministres qui viennent de la droite et qui s'assument toujours de droite. C'était impensable, à l'époque où Lionel Jospin, par exemple, était à Matignon, 20 ans après. Est-ce que ça vous semble normal ?
Écoutez, moi je m'assume de gauche. Je suis depuis toujours attaché à des valeurs de solidarité, d'égalité des chances. C'est exactement ce que je porte à la tête de mon ministère. Vous savez que on se mobilise de façon inédite en faveur de la jeunesse. On peut aussi rappeler qu'on a accompagné les demandeurs d'emploi depuis le début de la crise, que depuis le mois de novembre, on a prolongé les droits des demandeurs d'emploi, les allocations des demandeurs d'emploi arrivées en fin de droit. C'est plus de 800 000 demandeurs d'emploi qu'on a protégés. C'est 3 milliards d'euros. On a mis en place des aides exceptionnelles pour les travailleurs précaires, pour leur assurer un revenu minimum de 900 euros par mois. C'est plus de 600 000 travailleurs précaires qui en ont bénéficié.
Mais le centre de gravité de la majorité présidentielle s'est déplacé vers la droite.
Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Moi, je peux vous dire que
c'est une étude de CVPOF menée par Ipsos, l'Institut Jean Jaurès, et en partenariat avec le journal Le Monde, qui indique très clairement que pour les Français, il y a la perception que La République En Marche s'est déplacé vers la droite,
que
son centre de gravité s'est déplacé vers la droite.
Ça veut sans doute dire qu'il faut qu'on montre mieux ce qu'on fait pour protéger les Français, pour assurer l'égalité des chances dans notre pays, pour permettre à chacun d'être protégé dans la crise. Tout ça, c'est ce qu'on porte depuis le début de la crise.
Justement, on a l'impression que ce qui doit être l'aile gauche de la majorité, à savoir Territoire de Progrès, on n'en entend pas énormément parler. Pourquoi ? Première question. Deuxième question. Manuel Valls émet manifestement des velléités de rentrer dans son pays, en France, qui maintenant est son vrai pays, dit-il. Est-ce que vous lui dites « Bienvenue Manuel, à Territoire de Progrès, tu fais partie d'un élément important qui pour l'avenir ?»
Territoire de Progrès est présent dans les élections. Peut-être que ces élections, et ce que vous en évoquiez, montrent bien que ça tourne à des histoires de casting et à des préparations présidentielles pour beaucoup. Mais Territoire de Progrès est présent dans ces élections régionales. Quant à Manuel Valls, moi je ne sais pas ce qu'il veut faire. Ce que je peux lui dire,
manifestement, il va faire de la politique en
France. Ce que je peux lui dire, c'est que le projet du président de la République, il a bien à cœur de permettre le rebond de notre pays, d'assurer l'égalité des chances.
Mais vous le connaissez bien, Manuel Valls.
Je vous confirme que je le connais.
Vous faisiez partie de la bande Jo, on y revient toujours, mais vous faisiez partie donc de la bande à Jospin à l'époque.
On se connaît bien, et je pense qu'il peut tout à fait...
Vous le connaissez bien, vous avez travaillé avec lui, c'est la raison pour laquelle il faut répondre clairement à Nathalie.
Mais je pense qu'il peut tout à fait se retrouver dans la politique que porte le gouvernement.
Donc bienvenue.
Mais pourquoi pas ?
Céline Dorier.
Les violences qui ciblent la police ne cessent d'augmenter. Elles ont doublé en 15 ans. Pensez-vous, comme Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, que la France est menacée, je le cite, d'ensauvagement ?
Écoutez, je pense que c'est un sujet sensible et qu'évidemment, on doit tout faire pour protéger nos policiers. On a eu un certain nombre de drames récemment. Je peux vous dire qu'on est évidemment mobilisés pour protéger les commissariats, pour durcir les sanctions à l'égard de ceux qui s'en prennent à nos policiers, à nos forces de l'ordre, que le garde des Sceaux vient d'adresser une instruction très claire en demandant au procureur d'être intransigeant vis-à-vis de ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Donc il faut évidemment être très vigilant dans un pays où, comme sans doute ailleurs dans le monde, il y a plus de violence.
Mais pour prolonger la question de Solène Deroyer, est-ce qu'on est dans le bon équilibre en ce moment en France entre la police et la justice ?
C'est un sujet compliqué. Vous savez, moi, en tant qu'ancienne préfète, comme vous l'avez rappelé, je mesure parfaitement le découragement des policiers quand un certain nombre de décisions de justice ne vont pas dans le sens de ce qu'ils attendent. Mais je pense qu'on est aussi en train de payer des années de sous-investissement dans la justice, et c'est bien pour ça que le Premier ministre a tenu à ce qu'on renforce les moyens de la justice comme on ne l'avait jamais fait, et qu'ensuite il faut évidemment que la police, que les forces de l'ordre et la justice travaillent ensemble au mieux, et c'est ce à quoi s'emploient Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a donné un grand entretien à la revue Zadig, grand entretien où il expose sa France, en l'occurrence, Nathalie Saint-Cricq, vous l'avez lu.
Oui, je l'ai lu. Comment comprenez-vous l'expression qu'il emploie à un moment donné en disant qu'il était un enfant roi ? Est-ce qu'il y a encore des traits de caractère qui se retrouvent aujourd'hui dans sa façon d'exercer le pouvoir et qui seraient justement les traces ou les stigmates de ce côté enfant roi qu'il avait quand il était petit ?
Elisabeth Borne.
Enfin, je pense qu'il faut sortir des caricatures. Cet entretien, il lui permet de
Ah non, c'est lui qui emploie le terme, c'est pas moi qui
Oui, mais enfin, je pense qu'on voit bien le rapprochement que vous pourriez vouloir faire. Je pense que c'était important qu'il puisse donner sa vision du pays, y compris des racines, des crises qu'on a pu vivre ces derniers mois et que notre pays a connues, puis qui redisent aussi tous les atouts, toute la confiance qu'on peut avoir sur la capacité de rebond de notre pays. Moi, c'est ce que j'en ai retenu, en fait.
Et la Seine-Saint-Denis qui ressemblerait à la Californie
sans la mer.
Et je pense que c'est important.
Est-ce que c'est pas un peu osé comme
c'est
vision
important
quand on voit
dire
le rapport qui avait été fait sur les faibles moyens en Seine-Saint-Denis et la difficulté
Évidemment, il faut accompagner la Seine-Saint-Denis. Je crois qu'il faut aussi valoriser l'énergie qu'on peut avoir dans un territoire comme la Seine-Saint-Denis. Vous savez que ça doit être un des territoires dans lequel il y a le plus de jeunes qui créent
des
jeunes et qui créent des entreprises. Donc je pense qu'il faut aussi sortir de l'image qu'on véhicule trop souvent de la Seine-Saint-Denis. C'est un territoire qui a beaucoup d'énergie et beaucoup d'atouts.
Et il compare aussi la période actuelle au Moyen-Âge, à l'aube d'une renaissance. Est-ce que cette analyse, cette analogie présidentielle vous paraît pertinente ?
Je pense qu'on peut se dire qu'on arrive peut-être à la fin d'un cycle où on va pouvoir rebondir et créer autre chose. La crise, elle nous a la crise sanitaire absolument inédite et qui était impensable il y a encore quelques mois, elle va forcément nous amener à changer, à revoir sans doute, à remettre en perspective beaucoup de choses.
Mais on ne voit pas encore le monde d'après, on ne voit pas encore se profiler la Renaissance. Alors il y avait l'invention de l'imprimerie dont parle le président de la République dans son grand entretien. Voilà, à quel signe est-ce que vous voyez que l'on sort de l'obscurité pour nous acheminer vers la lumière ?
Je pense que la crise, elle accélère toutes les transitions qui étaient déjà à l'œuvre. La transition écologique, par exemple. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu absolument majeur, donc il va falloir se saisir, qu'il va falloir inventer une économie de demain qui sera plus numérique, plus écologique, qui prendra mieux en compte le vieillissement de la population, donc toutes ces transitions qu'on est en train de vivre. Moi, je pense qu'on a beaucoup d'atouts pour le faire. Ça pose des défis considérables en termes de compétences, d'adaptation des compétences des salariés. Vous savez, Boris Cyrulnik disait l'autre jour, on fera 5 métiers au cours de sa vie. Et ben, ça veut dire que l'effort qu'on fait depuis le début du quinquennat sur la formation continue, des outils comme ceux qu'on a inventés dans la crise, transition collective pour permettre aux salariés dont les emplois sont menacés d'aller vers d'autres métiers, c'est des outils qui seront fondamentaux dans un monde qui va changer de plus en plus vite.
Est-ce que vous avez félicité N'Golo Kanté?
Aïe, aïe.
Non.
Alors, non, manifestement.
C'est vous savez qui foot. C'est quand même.
Il a joué à Chelsea et il a gagné la Champions
League
hier. C'est
formidable, bravo.
Et c'est effectivement formidable. Merci en tout cas, Elisabeth Borne, d'avoir été l'invitée de Questions Politiques. On vous souhaite un dimanche chatoyant, ensoleillé à l'extérieur. Il fait beau à l'extérieur de ce studio.
Bonne fête
à l'intérieur aussi. Bonne fête à toutes les mères. Merci Solène de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison.
Merci
à Alexandre Gilardi et à l'équipe technique de Questions Politiques. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain.